Bonjour, monsieur le curé. Nous sommes donc dans l'église de Saint-Mauron, dans le 3e.
Je me présente. Bonjour, Florence. Je suis donc de Père Antoine Chapelle. J'appartiens à la congrégation des religieux de Timon David. Le Père Timon David, au siècle dernier, était un prêtre de Marseille qui s'est beaucoup occupé de la jeunesse des milieux ouvriers et populaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles ma congrégation se trouve donc ici, dans ce quartier de Saint-Mauron, que j'ai connu quand j'étais jeune séminariste, mais pour le ministère, j'y suis donc venu il y a 17 ans et j'exerce la charge de curé de la paroisse depuis 15 ans.
Cette église est placée et nichée presque sous la bretelle d'autoroute.
Ce qui est fort dommageable, non seulement pour l'église, mais pour notre quartier lui-même, qui, tout le monde le reconnaît, a été blessé, j'ose pas dire mortellement blessé, par la construction de l'autoroute qui, vous l'avez bien vu, a réalisé une véritable saignée dans notre quartier. De très nombreuses habitations et commerces ont été détruits et de ce fait, le quartier, qui reste un quartier sympathique pour moi et pour beaucoup d'autres, n'a plus le caractère de village qu'il avait effectivement avant la construction de l'autoroute.
Alors la population catholique, c'est un tiers de la population de Saint-Mauron, un quart, un cinquième?
Ce serait plutôt un cinquième. Alors je dois dire que je connais un certain nombre de familles maghrébines. J'ajouterai que si je fais état, parce que c'est la réalité d'une présence musulmane très nombreuse, massive, dirais-je, au sens premier de ce mot, et point du tout péjoratif, je dois dire qu'il n'y a pas de problème dans la cohabitation des chrétiens et des musulmans. Les problèmes pourraient venir éventuellement d'une certaine délinquance, mais qui n'a rien à voir avec la religion elle-même.
Est-ce que vous rencontrez l'imam de Saint-Mauron?
Non, je réponds non, parce que c'est ainsi. Non, point parce que je ne peux pas le rencontrer, mais parce que de fait, je ne l'ai pas rencontré. Voilà. Et je dois dire aussi que depuis quelque temps, il y a une présence comorienne très forte. Ceci, donc, non point pour exprimer je ne sais quel regret, mais plutôt pour décrire plus complètement ce qu'est notre quartier de Saint-Mauron.
Alors, dans votre travail, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir les gens? Vous vous rendez chez les familles?
Oui, je me rends dans les familles, je partage le deuil des familles, il s'agit évidemment de familles chrétiennes en l'occurrence, bien évidemment. Voilà. Chaque année, je baptise environ 50 enfants, et donc au préalable, j'ai un contact avec la famille chez laquelle je me rends. Je ne manque d'ailleurs que le parrain et la marraine, ou le futur parrain, la future marraine de baptême viennent à la préparation. Et donc c'est plus sympathique parce qu'on est chez des gens et dans le film même, je dirais, de la préparation du baptême de l'enfant, on parle de la vie, du travail, des difficultés, de l'environnement.
Est-ce que vous êtes en relation avec les assistantes sociales?
Directement, non. Bon, je connais le directeur du centre social, M. Loïacono. Occasionnellement, j'en ai rencontré parce que tel ou tel service m'avait demandé, mais très honnêtement, je ne puis pas dire que je suis en contact, dirions-nous, permanent avec elle.
Alors si par exemple vous fréquentez une famille chrétienne et vous vous rendez compte qu'il y a d'énormes problèmes à résoudre, à ce moment-là, vous ne vous adressez pas au centre social. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de résoudre le problème, pour l'aborder ?
Je m'adresse au centre social s'il s'avère que l'intervention du centre social est très indiquée. Mais la plupart du temps, j'interviens auprès d'une administration où je rédige une lettre.
À qui ?
Un conseil à telle ou telle administration qui est concernée. Voilà. Il m'est arrivé une fois ou l'autre d'accompagner, alors je dis ce qui est, des Capverdiens, plutôt illettrés, hein, directement dans la direction de telle ou telle société d'HLM. Voilà, je dirais que c'est au coup par coup, pour m'exprimer très familièrement.
Avec toute votre expérience dans ce quartier, je pense que vous avez dû rencontrer, affronter certaines situations particulières, peut-être ?
De fait, c'est regrettable. Beaucoup voudraient remédier à cela, notamment tous les partenaires du DSEU, du développement social urbain, et d'autres acteurs, disons, de la vie de notre quartier. La situation dont je veux parler est celle-ci. De fait, le parc Bellevue est une entité qui est coupée du reste du quartier. Je répète que ceci est regrettable. La coupure n'est pas seulement topographique, puisque de fait, le quartier Bellevue se trouve situé vers l'extrémité de la rue Félix Pillat, donc loin du début de cette même rue, et de ce que plusieurs appellent encore aujourd'hui le noyau villageois. Alors il y a donc le parc Bellevue, qui est une entité à part, un certain nombre de rues adjacentes, qui ont leur physionomie, et j'allais oser dire, pour employer un grand mot, leur statut propre. Il y a l'extrémité, avant d'arriver à l'échangeur de l'autoroute, qu'on aille de prendre ou qu'on en sorte l'armée du salut, qui compte beaucoup d'ailleurs dans notre quartier, et depuis de nombreuses décennies. Il y a la rue Félix Pillat, qui est un peu, je dirais, l'artère centrale du quartier, qui, j'ose le dire, a besoin d'être rénovée et de devenir une rue qui soit une belle rue. Et il y a donc toute une autre partie de notre quartier de Saint-Mauron, tournée plutôt vers la Belle de Mai, et qui, je suis un peu brutal, n'a rien à voir avec le parc Bellevue ou les autres lieux que je viens d'énumérer.
Vous avez l'air un petit peu de réduire les problèmes à l'architecture. C'est vrai qu'il faut à tout prix que le quartier soit rénové, c'est évident. Mais il n'y a pas que cet aspect-là quand même. C'est peut-être ce qui saute le plus aux yeux, évidemment. C'est l'architecture, c'est l'état de délabrement des immeubles, des habitations. Mais enfin, derrière, il y a quand même tous les gens qui vivent.
Ce que vous appelez d'un grand mot, l'architecture, c'est quand même, je dirais, le signe et le lieu, à la fois, auquel correspondent des habitats et des populations, ou des familles, ou des masses de familles, ou des poignées de familles, très différentes. Autrement dit, la réalité humaine correspond tout à fait à la topographie et à ce que vous appelez, n'est-ce pas, l'architecture. Hein, et d'ailleurs, si vous voulez, il est assez normal, même si on peut le regretter, j'en suis d'accord, que des familles ou des personnes âgées qui habitent dans des habitats très modestes par leur dimension ne soient pas, sauf nécessité, en relation avec des familles qui habitent dans des cités, dans des dimensions d'architecture sont très grandes.
Urbanisme, si vous préférez.
Voilà. Par ailleurs, si nous regardons les quelques rues qui sont limitrophes, véritablement, du quartier de la Belle de Mai, donc non seulement l'urbanisme, comme vous dites, ou le caractère des lieux, mais aussi la manière de vivre, la proximité, par exemple, par rapport au commerce de la Belle de Mai, tourne donc ces habitants de Saint-Mauron vers la Belle de Mai plutôt que vers le reste du quartier lui-même de Saint-Mauron.
Quelle est votre place dans ce quartier en tant qu'habitant et bien entendu en tant que prêtre ?
Je suis donc, bien évidemment, un des habitants de ce quartier de Saint-Mauron. Je m'y intéresse. Peut-être devrais-je manifester, et concrètement, davantage mon intérêt. Mais j'ai beaucoup d'obligations. Cependant, je participe, autant que j'en ai la possibilité, aux réunions, aux assemblées du comité d'intérêt de quartier.
Est-ce que ces différentes communautés communiquent entre elles ?
La réponse que je vous donne est bien évidemment ma réponse, basée sur ce que j'ai pu constater. Et donc, elle est très limitée. Il me semble donc que si nous faisons abstraction des relations avec les commerçants, des relations de voisinage immédiate, je dois dire que ces diverses communautés, d'une manière générale, ne communiquent pas entre elles. Ce qui ne veut pas dire du tout que les relations entre elles ne seraient pas bonnes. C'est complètement différent, vous le comprenez bien. Il faut, je pense, reparler brièvement des très anciennes familles italiennes qui sont donc arrivées dans notre quartier au début du siècle. Et beaucoup de membres de ces familles ont travaillé dans ce qui était, naguère, l'usine Fournier-Ferrier située sur l'emplacement actuel du parc Bellevue. C'était une usine de ciergerie, de stéarine, de fabrication de bougies, de fabrication de savon, qui faisait travailler tout le quartier et des anciens du quartier, donc d'origine italienne, soit piémontais, soit sardes, soit venus d'autres provinces de l'Italie, parlent encore de cette usine, de l'atmosphère non seulement de travail, mais aussi de camaraderie, de fraternité qui régnait.
Alors ces familles, à la fermeture de l'usine, ont été dispersées, ont été éclatées vers d'autres quartiers pour travailler ?
Pas nécessairement. D'une part parce que des membres de ces familles étaient ou sont encore d'arrière-grands-parents, vous serez des grands-parents, des grands-tantes, et donc du fait de leur âge ou de l'appartement que ces familles occupaient n'ont point quitté notre quartier. Ce qui m'amènerait à dire qu'un des aspects négatifs, hélas, de notre quartier, c'est le fait que si l'on accepte quelques ateliers situé sur le boulevard national, à Saint-Moron même, il n'y a plus d'emploi, de travail sur le quartier même de Saint-Moron.
Mais quand même, quand l'usine a été fermée, il n'y avait pas que des personnes âgées, enfin proches de la retraite. Il y avait quand même des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont retrouvé du travail dans d'autres quartiers, dans un autre secteur? Est-ce qu'ils ont changé de secteur d'activité? Est-ce que vous êtes au courant?
Pas complètement. Disons qu'il s'est passé, et se passe encore, pour Saint-Moron, ce qui advient dans bien d'autres quartiers de Marseille, des personnes, des couples, surtout des couples jeunes, des familles qui peuvent, même sans être très fortunées, quitter le quartier pour aller s'installer ailleurs, le font. Alors c'est moins un problème qui serait la conséquence de la fermeture de l'usine Fournier-Ferrier, bien que cela ait joué incontestablement, que le fait que beaucoup de gens, c'est ce qui hélas caractérise Marseille, quittent notre quartier, quittent Marseille, dès lors qu'ils peuvent aller s'installer ailleurs, à la périphérie de l'agglomération marseillaise. Je suis très attaché à l'histoire de notre quartier. C'est pourquoi, non seulement dans cette interview, mais il y a quelques années, à Radio Dialogue, qui est la radio des chrétiens de Marseille, j'avais, avec des paroissiennes, évoqué cette histoire et donc le caractère ou l'impact très important qu'avait cette usine Fournier-Ferrier. Mais puisque nous parlons de nos amis italiens, et il ne faut quand même pas oublier nos amis italiens, je veux dire ceux qui sont des rapatriés de Tunisie, français de souche italienne, sicilienne, maltaise, qui étaient en très grand nombre au parc Bellevue, lors de leur rapatriement de Tunisie, mais qui sont encore assez nombreux aujourd'hui dans cette cité et qui forment, si je puis dire, une des communautés humaines de notre quartier de Saint-Moron.
C'est-à-dire que les rapatriés ont été directement aiguillés vers la cité Bellevue.
C'est tout à fait cela. Alors certains sont partis, mais comme sont partis d'autres habitants, ce que nous voulons de dire ensemble, d'autres habitent encore au parc Bellevue. Et donc, je dirais, vivent avec ceux qui sont d'origine soit maghrébine, soit africaine, je veux dire d'Afrique noire.
En ce qui concerne la communauté comoréenne,
alors, je redirai, mais toujours avec sympathie, qu'elle est un peu une communauté qui a sa personnalité propre. Si bien que, je me permets de dire, je voudrais être bien compris, et là encore, je ne suis pas dépréciatif, que par exemple, du point de vue de la religion, de l'islam, que je respecte et connais quelque peu, les amis comoriens pratiquent l'islam à part, je veux dire à part les autres musulmans, maghrébins par exemple, dans une mosquée qu'ils ont sur notre quartier de Saint-Moron, dans la rue Gaillard, non loin d'ailleurs de ma paroisse.
Alors comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a une mosquée pour les maghrébins, l'arrivée des comoréens a fait apparaître une autre mosquée?
Oui, en ce sens que, si vous voulez, il n'y a pas de mosquée à proprement parler, je veux dire de monument imposant dont l'architecture montre ostensiblement qu'il y a donc là un lieu sacré de la religion musulmane comme lieu de rassemblement, comme lieu de prière et de recueillement, bien entendu. Mais on appelle quand même mosquée, je dirais avec beaucoup de respect, et de sérieux. On appelle comme une mosquée d'anciennes habitations ou appartements, comme vous voulez, qui ont été transformés par telle ou telle communauté musulmane et qui est donc devenu le lieu de prière, notamment de vendredi, qui est le jour sacré, comme vous le savez, correspondant à leur religion qu'ils pratiquent. Mais il y a, si vous voulez, une sorte de séparation, de fait, je dirais, qui ne tient pas du tout à je ne sais quelle inimitié qui existerait et qui n'existe pas, j'insiste exprès, entre des musulmans comoriens et des musulmans maghrébins.
Dans ce quartier, parlez-moi de communication, relation, partage.
Me permettrez-vous d'être un tantinet méchant? C'est-à-dire que je voudrais vous faire remarquer, fort aimablement, que nous avons sur notre quartier le centre, un centre très important des télécommunications. Si nous acceptons l'agence commerciale, ou bien entendu, le public a accès, et donc il y a là, pour la population de notre quartier même, qui habite là, un avantage très appréciable, au sens où les usagers n'ont pas à beaucoup se déplacer pour aller régler une facture de téléphone, contacter un technicien qui reçoit le public, et ainsi de suite. Mais je me permettrai de dire, et j'espère que personne ne m'en voudra, que si ce centre des télécommunications, qui est une construction massive, et qui comporte d'ailleurs toute une série de bâtiments où le public n'a pas du tout accès, qui est aussi un des centres de télécommunications les plus sophistiqués d'Europe du point de vue technologique, ce centre, osais-je dire, n'a rien apporté à notre quartier, puisque non seulement il occupe une superficie très importante, mais, j'ose le dire aussi, il n'a apporté aucun travail d'ordre commercial ou autre à notre quartier à proprement parler.
Donc ce n'est pas la communication.
Alors, en ce sens-là, il n'y a pas de communication. La communication existe bien plutôt dans des relations de voisinage, j'allais dire de salutations cordiales, de respect, d'amitié plus poussée que les uns et les autres, nous essayons d'avoir dans notre quartier, et surtout de l'étendue de celui-ci. Moi-même, je le répète, mais sans fierté, je salue beaucoup de personnes arabes qui finissent par me connaître. Voilà, nous nous connaissons bien, nous le saluons, nous sourions. Dans un autre ordre d'idées, si je puis m'exprimer ainsi, je suis très copain, pour employer ce mot, avec Richard Martin, le directeur du théâtre Tourski. Nous sympathisons beaucoup, très cordialement, très chaleureusement. Et donc, si vous voulez, cette bonne amitié est un des signes de ce que j'appelle la convivialité qui n'existe pas partout à Saint-Mauron, il faut le reconnaître, mais que nous essayons d'accroître les uns et les autres de notre mieux.
L'église, c'est un lieu de partage.
L'église est un lieu de partage. D'abord, elle compte dans le quartier. Non seulement parce qu'elle est visible, mais parce qu'elle est très ancienne. Elle remonte au siècle dernier, sous l'épiscopat de Monseigneur de Mazenon, qui sera canonisé, déclaré saint, le 3 décembre prochain, à Rome, et qui a marqué l'histoire de Marseille. La paroisse Saint-Mauron a été instituée par Monseigneur de Mazenon. De plus, et tout le monde le dit, l'église est belle. Et donc même des gens qui ne sont pas pratiquants et qui y entrent, qui la connaissent, le disent, le voient et en sont heureux. Ensuite, nous exhortons les chrétiennes et les chrétiens à vraiment vivre dans leur quartier et à ne pas vivre à part. Donc, lieu de beauté, lieu de prière, lieu de quartier, lieu de partage.
Vous avez des peintures qui datent de quelle période ?
Alors, l'église a été construite en 1854. Et les peintures sont l'œuvre de l'oncle de Toulouse-Lautrec. Non pas de Toulouse-Lautrec lui-même, n'est-ce pas ? Qui lui est très connu, mais de son oncle ou d'un de ses oncles.
Vous m'avez appris qu'il y a des orgues dans l'église.
Alors, notre orgue, ce ne sont pas de grandes orgues, comme disons à Saint-Victor ou à Saint-Joseph dans la rue Paradis. Mais enfin, notre orgue est un vrai orgue, si je puis dire, un madère. Madère était un facteur d'orgue du siècle dernier. Et nous sommes heureux d'avoir un orgue.
Et vous avez une organiste ?
Nous avons même deux organistes, une ancienne du quartier, Madame Madeleine Crespi, qui habite en haut de la rue Colin, dans ce que les anciens appellent encore la campagne Pons, et une lycéenne, Isabelle Rome, qui est en classe terminale au lycée Victor Hugo, donc près de notre quartier de Saint-Moron, et qui joue, elle aussi, de l'orgue.
Un dernier mot sur ce quartier, sur votre église, sur ses habitants ?
J'aime le quartier de Saint-Moron, où je suis curé, et comme j'ai eu parfois l'occasion de le dire, dans des réunions publiques, notamment en présence des élus de notre quartier, conseillers municipaux, conseillers d'arrondissement, conseillers généraux, députés, j'adresse encore un appel vibrant pour que ceux qui ont le pouvoir de décision fassent tout ce qu'ils peuvent pour rénover notre quartier, l'embellir quelque peu, le faire aimer davantage.
Au revoir.
Florence, je vous remercie de m'avoir interviewée.